RCF.
Le Dominicain et la famille, tel est le thème que nous avons choisi d'aborder aujourd'hui. Et pour cela, nous recevons le frère Hervé Ponceau. Frère Hervé, bonjour.
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 Vous avez assumé à peu près toutes les fonctions importantes dans l'ordre dominicain.
Pas tout à fait encore, j'ai jamais été maître de l'ordre.
Mais... Ni pape d'ailleurs.
C'est un livre.
Sur plusieurs continents, la plus prestigieuse peut-être a été la responsabilité de l'école biblique de Jérusalem. Peut-être en quelques mots, c'est une gageure, dites-nous les grandes étapes essentielles de votre parcours de dominicain.
Comme dominicain, donc je suis entré chez les dominicains, on y reviendra en fin 74, je suis arrivé fin 74. Et j'ai pris l'engagement, donc, mai 75. J'ai suivi un parcours, au départ, classique de formation, hein, voilà. J'ai suivi l'enseignement qu'on me donnait. Et après, j'étais un peu formateur, du coup, pour donner un coup de main. Et ensuite, on a commencé à me donner des responsabilités, comme le maître des novices, maître des étudiants, c'est un peu l'accueil des plus jeunes. Et puis ensuite, j'ai eu d'autres responsabilités, comme sous-prieur, récemment à Montpellier, comme prieur, comme assistant du prieur provincial, etc. Enfin, et surtout, en plus, j'ai assumé d'autres responsabilités plus techniques, d'économe, de chantre, etc. Donc, une diversité.
Et puis, une grande place sur le net également, sur Internet.
Alors, mais ça a été au fil du temps, c'est-à-dire qu'effectivement, j'étais un peu un pionnier, il faut le dire humblement, mais j'ai connu l'époque où je démontais les ordinateurs, je les remontais, je créais des petits programmes, enfin des choses comme ça, pour faire connaître Saint-Dominique déjà. Bon, aujourd'hui, évidemment, ça a pris une ampleur extraordinaire, tout le monde a son personnel computer, donc le PC, mais moi, à l'époque, j'étais un des rares à avoir maître lancé là-dedans.
Alors, deux séjours à l'étranger qui sont quand même importants, qu'il faut évoquer, le premier à Jérusalem, à l'école biblique, et le deuxième à Haïti.
Alors, effectivement, j'ai été en Haïti à partir de 2001, si je me souviens bien, oui, 2001, je ne sais plus les chiffres, mais m'échappent souvent. Et puis là, c'était juste parce qu'il fallait justement quelqu'un pour former les jeunes frères haïtiens. Et beaucoup plus tard, donc j'ai été sollicité, bon, je ne suis pas resté longtemps en Haïti, j'ai eu des problèmes de santé. Et beaucoup plus tard, je suis passé par l'école biblique de Jérusalem où l'on m'avait demandé d'assurer la direction. Et ça, c'était les années plus récentes, 2008-2012, si mes souvenirs sont bons, encore une fois, je ne suis pas sûr des dates.
Votre dernier ouvrage, « Je suis né plusieurs fois dans ma vie », bien sûr, on voit le clin d'œil à Nicodème.
Oui.
Donc, pour vous, il y a eu plusieurs naissances. Est-ce qu'on pourrait aborder peut-être la première?
Alors, il y a eu plusieurs naissances parce qu'en fait, ce livre est une forme d'autobiographie, comme j'ai ma mémoire qui part un peu. Et alors, du coup, je me suis dit, c'est le moment d'écrire ce qui a été important. Ce qui est important, c'était les moments où j'ai eu le sentiment, ou même la certitude, que Dieu m'appelait. Et donc, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a eu quatre moment important. Et le premier de ces moments, c'était très jeune.
Vous aviez 7 ans à l'époque.
J'ai 7 ans, je suis en classe de 9e, quelque chose comme ça, et à l'école Saint-Hérambert à Saint-Germain-en-Laye, dans la banlieue de Paris. Et on nous avait demandé d'écrire un cahier missionnaire, donc un cahier dans lequel on écrivait tout ce qui concernait un pays que l'on choisissait. Moi, je l'ai choisi, si mes souvenirs sont bons, la Haute-Volta. Et puis, après, on nous a fait venir à la fin, là, pour nous féliciter, on nous a fait venir un évêque qui a dit une messe un peu dans cette dimension missionnaire. Et il se trouve que c'était le Monseigneur Dzongkhana, qui est ensuite devenu cardinal, et qui était l'évêque de Ouagadougou. Donc, et au cours de cette célébration qu'il a faite, au moment de l'offertoire, j'ai tout à coup eu ce sentiment. Après, je ne parlerai pas de sentiment, je parlerai de voix plus tard. Mais à cette époque-là, j'ai eu le sentiment que, eh bien, qu'un jour, je ferai la même chose que lui. J'élèverai aussi les offrandes sur l'autel, voilà. Et alors, j'en ai un souvenir très précis, mais je me vois encore, même dans les circonstances. À l'époque, je me souviens quand même qu'il y avait une messe presque hebdomadaire, hein, donc dans ce collège des oratoriens.
Et c'est quelque chose qui vous a suivi ensuite, ou est-ce que ça a été un flash puisque vous avez oublié qui est revenu?
Non, c'était un flash effectivement. Ce qui m'a suivi, c'est que j'ai toujours eu un peu ce sentiment que un jour ou l'autre, ben voilà, je serai peut-être prêtre. Mais c'était plus ou moins confus et ça ne s'est pas manifesté. Non, j'ai suivi après le cursus tout à fait normal et classique d'une formation avec le bac en 68, s'il vous plaît. Donc,
on l'a donné à tout le monde, c'est vrai.
Et j'avais 16 ans quand même à l'époque. Et puis ensuite, il se trouve que comme je réussis assez bien, on m'a demandé surtout mon père qui a beaucoup insisté pour que je continue sur le chemin et que je suis passé par une maths sup, puis ensuite une prépa à HEC, je suis rentré à HEC, voilà, en 71, voilà.
Et la troisième naissance, ce que vous qualifiez de troisième naissance, c'est après avoir validé ses études de HEC.
Alors, oui, il se trouve que je ne sais plus très bien comment je le dis, les naissances, mais il y en a une qui est venue au moment où je suis sorti de l'HEC. C'est-à-dire que je cherchais un emploi, tout simplement, mais ce n'était pas facile. Les circonstances étaient extrêmement difficiles. C'était en 74, c'était la fin des Trente Glorieuses, il y avait des problèmes d'approvisionnement, etc. Donc j'ai cherché j'ai trouvé une amie qui m'a guidé jusque à la communauté de l'Emmanuel, qui était relativement récente à l'époque, une année d'existence, et qui se réunissait à Saint-Sulpice, à la crypte de Saint-Sulpice. Donc j'y suis allé avec elle, un peu pour connaître, et puis là-bas je leur disais, vous voyez, j'arrive pas à trouver de travail, c'est embêtant. Alors ils ont prié pour moi. Et le 8 décembre 1974, donc là c'était plus un sentiment, vous allez le comprendre, à 11h15, je peux dire la date, le lieu et le moment précis, au cours d'une célébration qui se tenait pour l'Emmanuel, donc la communauté d'Emmanuel, j'ai donc entendu une voix très courte qui entrait dans l'oreille droite et qui m'a dit « entre chez les Dominicains ». Je ne les connaissais pas, je ne savais pas. J'avais bien cette idée de devenir prêtre, mais c'est tout. Je n'avais jamais pensé à aller vers religieuse. Et donc j'ai dû après me débrouiller avec cet appel.
Alors nous reviendrons tout à l'heure sur la plus récente de ces naissances avec Gaspard. Mais peut-être, puisque l'émission est centrée sur la famille, est-ce que votre environnement familial a été pour quelque chose dans votre vocation ?
Je ne peux pas le dire a priori comme ça, parce que ça n'a pas joué un rôle essentiel, mais visible. Ce que je peux dire spontanément, c'est que on me dit que je ressemble beaucoup à ma mère, qui est décédée depuis longtemps maintenant, en 96. Et elle m'a toujours bien accompagné, toujours soutenu. Mon père est quelqu'un de beaucoup plus discret, effacé. Donc, je pense que je dois beaucoup à ma mère et peut-être à sa prière. Je n'en sais rien, je ne le sais pas. Peut-être ça va-t-il jouer. En tout cas, j'étais d'une famille pas pieuse. Hein. Il n'y avait pas d'engagement multiple dans l'église. Mais voilà, assidu à la messe dominicale. Donc, c'est un environnement, j'allais dire, positif, mais pas... pas volontariste.
En particulier, vous n'avez pas été servant de messe,
non,
vous n'avez
pas été
scout.
Non, voilà, rien de tout ça. Non, voilà, donc j'avais un environnement favorable.
Mais quand même dans une école catholique.
Ah oui, ça, tous mes frères et sœurs, on est tous passés par à l'école Saint-Germain-en-Laye, Notre-Dame, Saint-Hérambert. Je finis quand même à Marcel-Roby, le lycée Marcel-Roby, à partir de la seconde jusqu'à la terminale. Mais bon.
Vous évoquiez tout à l'heure donc ce flash que vous avez eu à 7 ans. Est-ce que vous l'avez gardé pour vous dans votre cœur ou est-ce que vous avez partagé avec vos parents ?
Non, là, à ce moment-là, je ne l'ai pas tellement gardé. Ça s'est revenu sans doute parce que quand j'ai eu mon bac, là, donc je le disais en 68, après, ils m'ont pas vraiment dit qu'est-ce que tu vas faire. Je leur ai dit, tiens, sans doute, serais-je un jour prêtre ? Alors, ils m'ont dit comment ? Ils ne voyaient pas, donc on a mis ça sous le boisseau. Et c'est revenu surtout quand j'ai eu cette nouvel appel, là. Immédiatement, il s'est superposé, cet appel, donc cette voix, véritablement, s'est superposé à ce sentiment, comme je l'ai appelé tout à l'heure, que j'avais eu à 7 ans, que je serais un jour prêtre.
Avec le frère Hervé Ponceau, dominicain, nous évoquons la place de la famille dans le parcours d'un religieux. Nous venons de voir que très tôt, frère Hervé, vous avez eu un appel, un clin d'œil du Seigneur. Et je voudrais vous demander si, bon, bien sûr, on a évoqué ce partage avec les parents de la vocation. Alors, une fois que vous avez été ordonné et que vous êtes lancé dans cette longue carrière de dominicain, quel lien avez-vous eu avec votre famille? Vous étiez dans une nouvelle famille, puisque vous êtes tous frères, bien sûr. Quel lien avec vos parents et votre famille biologique?
Oui, alors vous me mettez l'accent sur un point important, c'est que souvent je dis ça aux frères, souvent les frères me disent « Ah, chez moi !» Et je dis « Chez toi, chez toi, c'était pas dans ta famille de naissance, c'est dans ta famille d'aujourd'hui. » Donc ils disent « Dans ma famille de naissance, bon. » Donc ils savent que je suis un peu un accrocheur là-dessus. Parce que, bon, moi j'ai vécu, je vous dis, dans une famille très paisible, hein, honnêtement, avec une très bonne ambiance fraternelle. J'ai pas eu de soucis particuliers, mais ensuite, quand je suis rentré, ben, j'ai mené ma vie avec la leur, hein, mes frères et sœurs. Nous sommes cinq, hein, donc j'ai quatre frères et sœurs. Mes parents sont décédés, donc j'ai déjà dit pour maman et papa qui est décédé en 2001, donc ça fait quand même pas mal d'années, 20 ans cette année. J'ai toujours eu ce lien fraternel, très, très chaleureux avec mes frères et sœurs. Qui ne sont pas des piliers d'église non plus, hein. Ça va, ça vient. Je peux pas dire qu'ils soient des fervents du monde dominicain. Ils sont venus pour mon ordination, mais je ne les ai rarement vus dans un couvent où j'étais, sauf évidemment quand j'étais à Jérusalem où un de mes frères et une de mes sœurs sont venus me retrouver parce que ça les intéressait de pouvoir profiter de ma présence là-bas. Donc je les ai vus un peu à ce moment-là. Mais c'est plutôt moi qui vais chez eux habituellement. Mais il faut dire aussi qu'ils ont leur famille, leurs enfants. Moi, je suis... Et puis, je suis cette espèce où, quand on vient nous voir, c'est pas un enfant, etc. On est 14 dans la communauté. Ça leur fait peut-être un peu peur.
Et vous avez baptisé des neveux, des nièces?
Oui, absolument. Oui, j'ai fait des mariages et tout ça. Alors là, évidemment, dès qu'il est des questions comme ça se posent, on n'oublie pas qu'on a un frère qui est prêtre, en général.
On va le chercher.
Dans votre ouvrage, vous évoquez la mort de vos parents,
oui.
Particulièrement d'abord la mort de votre maman, oui. Qui vous a beaucoup touché.
Oui, c'est compliqué toujours, hein, le rapport qu'on a avec sa mère. On le découvre, on le vit, et puis parfois on le redécouvre, si je peux dire. Moi, je l'ai toujours vécu. Maman avait une forte intuition. Quand je lui disais quelque chose, elle me disait « mais je m'en doutais », ou je ne sais pas. Je crois que c'est vrai en plus. Donc effectivement, quand elle est disparue, mes frères et sœurs, on s'est dit après coup, mais beaucoup plus tard, un an après, on s'est dit qu'il nous avait fallu un an pour pouvoir accueillir sa mort. Ça avait été long. Elle avait une place très forte. Elle était extrêmement joviale, extrêmement présente, très appréciée de ses amis. Papa, je vous l'ai dit, était beaucoup plus effacé, discret. Il est devenu un peu moins une fois que maman est décédée. Ça lui a permis de s'épanouir un peu plus personnellement. Ça arrive hein, dans les couples, les va-et-vient comme ça, c'est connu. Mais c'est vrai que quand maman est décédée, bon, bah, comme mes frères et sœurs, ça a été une lourde épreuve. Mais pas, on s'en est pas rendu compte comme ça, enfin, c'est au fil du temps. Maintenant, je suis très content qu'il soit au ciel et qu'il soit prêt à m'accueillir un jour. Ça viendra prochainement, voilà, quand le moment venu.
Alors, vous parlez d'abord de la mort de votre père et qu'à ce moment-là, vous vous êtes senti autorisé à partir loin de France.
C'est-à-dire que le moment où la question s'est posée de savoir qui on allait envoyer en Haïti. Et comme il était question de formation... j'ai participé à ce chapitre provincial, donc des Dominicains, de la province de Toulouse, et il fallait avoir une réponse. Qui allions-nous envoyer? Et dans la mesure où, effectivement, mon père venait de décéder, encore une fois, paisiblement, hein, en se rendant à un rendez-vous, il est à l'hôpital, il n'est pas sorti de l'hôpital, bon, tout simplement. Et donc, je me suis dit, maintenant... une page de ma vie est tournée, parce que, bon voilà, quand t'as plus ses parents, mes frères et sœurs, ils ont leurs enfants, leurs petits-enfants, etc. Et moi, j'ai ma famille.
Vous sentiez quelque part une responsabilité à son écart.
Oui, peut-être. Mais je me suis surtout dit, il faut que j'honore ma famille, comme le font mes frères et sœurs.
Ça veut dire que religieux, c'est pas une personne hors sol.
Ah, jamais, non. Et puis surtout pas les dominicains. On dit ça parfois à des gens qui sont cloîtrés, des moines, etc. Nous, on n'est pas des moines. On est souvent par mons et par vaux. Et je le dis d'autant plus que je le dis dans mon livre, j'ai voyagé pas mal dans le monde, hein, et je connais l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, les Philippines, etc. Enfin bon, non, on n'est jamais, on est constamment, puis en constamment contact avec des familles, avec des situations faciles, difficiles, c'est très varié.
Alors vous l'évoquiez d'ailleurs en parlant des équipes Notre-Dame, ce contact avec des familles, avec des couples. a été important pour vous.
Ah, tout à fait. Alors ça, c'est une opportunité. On est venu me chercher pour être à Toulouse. J'étais à Toulouse à ce moment-là. On est venu me chercher pour accompagner une équipe Notre-Dame. Alors, comme ils accompagnent les prêtres, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas au-dessus des participants, ils sont à l'égalité. Hein. Ils témoignent de la même manière, sauf que leur famille, elle est un peu différente de celle des autres, mais sinon, ils témoignent à l'égalité. Et c'est ce que j'ai toujours apprécié. Vous vous rendez compte, j'arrivais à des congrès ou des rencontres d'équipe Notre-Dame, j'étais pas obligé de faire un topo, une conférence, etc. J'avais rien à préparer, entre guillemets, sinon mon cœur. C'était pour moi un moment très important. J'ai dû partir faire une quinzaine d'années en équipe Notre-Dame. Et avec des couples, avec les difficultés de ces couples, un de ces couples avait un petit garçon qui est toujours, hein, qui était porteur de trisomie 21, on y reviendra. Et puis, j'ai aussi, malheureusement, il y avait un couple d'origine libanaise. Et la maman, donc, qui a eu trois enfants, et la maman est décédée assez jeune, à une quarantaine d'années, je crois. Moi, j'étais à ce moment-là à Jérusalem. Je suis revenu spécialement de Jérusalem pour célébrer l'enterrement, parce que j'étais très, très marqué par cette Rosemary, bon, voilà, qui est décédée très jeune.
Est-ce que c'est une autre famille pour le prêtre accompagnateur, l'équipe Notre-Dame ?
C'est une famille qui compte. Une autre, je ne sais pas, ma famille à moi, pour moi, elle est claire, c'est la famille dominicaine. En voilà. Plus, elle est large, vous savez, il y a des frères, il y a des sœurs, il y a des laïcs aussi, on l'oublie souvent, mais il y a des laïcs qui prennent des engagements par rapport à l'ordre des prêcheurs. Donc, c'est très, très large. Mais c'est une des familles qui compte, et c'est vrai que j'aime beaucoup cet aspect famille. Je me suis rendu compte que j'étais très à l'aise là-dedans, comme beaucoup de mes frères dominicains. D'ailleurs, on a pas mal qui ont des engagements en équipe Notre-Dame. Et... Donc pour moi c'est une famille, bon c'est pas ma famille en sens où ma famille c'est encore une fois c'est l'ordre des prêcheurs, mais c'est une famille qui compte.
Donc vous avez dit que les couples des équipes Notre-Dame soumettaient leurs difficultés, leurs souffrances à la prière des autres couples de l'équipe, et est-ce que le prêtre aussi peut se...
Absolument, ça a été très important, oui. Comme tout le monde, hein, dans ma vie religieuse, même si encore une fois j'ai eu cet appel initial qui a joué un très grand rôle pour m'assurer de ma vocation, je parle de l'appel initial, c'est celui de 1974. En même temps, on a des hauts et des bas, hein, quand même, dans toute cette vie au long du temps. À l'époque, pour moi, l'équipe Notre-Dame était extrêmement intéressante, et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que quand je reviens à Toulouse, je revois certains d'entre eux, alors que ça fait des années que nous ne sommes plus ensemble.
Thank you. Frère Hervé Panceau, dans votre ouvrage « Je suis né plusieurs fois dans ma vie », la quatrième naissance la plus récente, c'est une rencontre.
Oui, imprévue, hein, comme souvent. Vous savez, il faut se replacer en 2016. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Je suis chez des sœurs dominicaines à Lourdes et je découvre, parce que je suis récemment inscrit sur Facebook, je découvre via Facebook, je le faisais ça pas pour moi parce que ça ne m'intéressait pas, mais pour la communauté, et je découvre incidemment les pages de parents, d'un couple, Marie-Axelle et Benoît, Clermont, qui parlent de leur enfant, Gaspard, qui est sur le départ, si je peux dire. Et sur cet enfant, à 3 ans, il aura 3 ans le 30 août, et ils invitent à mettre un cierge, à faire une photo. Je le fais, puis je prends contact avec eux, puis ça va plus loin. Puis on parle entre nous à distance encore à ce moment-là. Et je me rends compte à la fois de la souffrance de ce couple, hein, qui a déjà 3 enfants, Gaspard est le 4e. Et Gaspard a 3 ans. Voilà, il a une maladie qu'on appelle maladie de Sandhoff, qui est une maladie dégénérative, et les enfants en général ne dépassent pas 4 ans. Donc, je suis vraiment touché, mais je le suis surtout parce que quelques jours avant Noël, en fait, le Noël c'est en 2016, on peut regarder, c'était un dimanche, et moi je suis à jeudi à Paris pour l'enterrement du père d'un de mes vieux amis d'HEC, et je trouve que j'ai l'après-midi libre, et je propose à Marie-Axelle et Benoît, donc les parents de ce petit Gaspard, de passer chez eux. Ils habitaient Herveil à l'époque, c'est plus le cas aujourd'hui, et j'y vais, et je me penche sur Gaspard, qui à ce moment-là est un petit garçon intubé, enfin bon... Ne parlons pas, la dégénérescence est déjà avancée, ne parlons pas, entendant, mais voilà, ne voyant pas, il est aveugle. Et donc, je découvre que cet enfant complètement abandonné, mais entre les mains de Dieu, les parents sont très croyants. Voilà, et je rentre au couvent ensuite à Montpellier, et les frères me disent, oh là là, on a l'impression que tu as été marqué. Ben, je dis, oui, mais bon, oh, tu en parleras dimanche, c'est toi qui prêches. Oh, je dis, bon, je suis pas très chaud, bon, enfin, je vais le faire quand même. Donc je prêche le dimanche pour la messe au couvent, et du coup je parle de Gaspard. J'en parle dans quelle manière? Je parle de cette situation qui était la mienne, avec des cadeaux au pied du sapin, Gaspard qui est dans une espèce de crèche. Et j'exprime du coup combien je me retrouve dans le mystère de la nativité de Jésus, avec un enfant sans possibilité vraiment de faire quoi que ce soit. Il est entre les mains de Dieu, entre les mains de ses parents et de ses frères et sœurs, de son frère et de ses deux sœurs, pardon. Et voilà, je me rends compte à quel point je suis extrêmement marqué. Je prends connaissance de plus en plus de leur page Facebook, Gaspard entre terre et ciel. Et voilà, et je suis marqué. Et du coup, j'avais conclu une espèce de marché, entre guillemets, avec Marie-Axelle, la maman, qui voulait que son fils décède à l'occasion d'une fête du Christ pour que ce soit pas trop triste. Et moi, je lui avais dit, je souhaite seulement pouvoir être là pour l'enterrement. Il se trouve que Gaspard est décédé le 1er février 2017 à 18h15, c'est-à-dire en fait pour les premières vêpres de la présentation au temple, ce qui pour moi est extrêmement significatif. Donc, il s'est présenté au temple. Et les parents, j'apprends le décès au cours de la nuit, et l'enterrement a lieu le samedi suivant, et je peux y être, et j'y serai. Entre-temps, bon, voilà, après, il se passe beaucoup de choses, ils font un film qui est disponible sur YouTube, Gaspard entre terre et ciel. Et moi, je suis en contact, discrètement, à distance. Hein, voilà, mais il se trouve que Gaspard est enterré à ce moment-là à Rueil. Et du coup, chaque fois que je passe à Paris, je fais un tour par veille sur la tombe de Gaspard. Une sorte d'hommage. Pourquoi? Parce que depuis, j'ai été marqué par toutes les dimensions. Je l'ai toujours été, hein, mais je suis encore plus, je peux dire, par les dimensions de la fragilité humaine. Et en particulier de handicap, de la maladie. Et du coup, je prends contact aussi avec pas mal de familles, porteurs de trisomie 21 en particulier. Voilà, je suis là... Je ne fais pas partie d'une association particulière, il n'y en a pas tellement à Montpellier. J'en ai cherché une à Montpellier, mais elle semble un peu en sommeil. Et voilà. Par contre, j'ai toujours été soucieux, depuis 2017, de cette dimension de fragilité de la vie humaine, et de ceux qui en particulier sont oubliés, délaissés à cause du handicap. Il se trouve qu'il n'est pas impossible que dans les temps qui viennent, je sois maintenant un peu plus en contact avec l'Arche de Jean Vanier, parce qu'il y a une belle présence de cette communauté sur Montpellier.
Alors c'est assez étonnant, moi j'ai été marquée en lisant votre livre du fait que vous évoquiez un échange de regards avec Gaspard. Vous dites qu'il est aveugle et en même temps qu'il y a un échange de regards qui vous a profondément touché.
Alors il se trouve que la photo des yeux de Gaspard se trouve sur la page Facebook des parents, donc moi je l'ai vu, effectivement, je me suis agenouillé à côté de lui parce qu'il était sur une paillasse, hein, c'est pour ça que je parlais d'une sorte de crèche, il était étendu sur une paillasse, on s'agenouillait à côté de lui, on priait avec lui, avec ses parents. Et donc j'ai des photos hein, sur mon blog Pro Veritate ou sur ma page Facebook Pro Veritate parce que j'ai les deux. Et je regarde Gaspard, je suis là, je lui donne la main, il parle pas, etc. Et j'avais le souvenir de ses yeux bleus profonds, très 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 vraiment qui ont marqué beaucoup de gens, hein, pas seulement moi. Mais moi je l'ai vécu réellement en face. On était à 50 cm l'un de l'autre. Et effectivement, je me dis. Il sait tout ce que j'ai fait. Je ne peux pas dire pour autrement, c'est idiot, c'est comme ça. Mais il sait tout ce que j'ai fait. Et tout ce que je n'ai pas fait. je reste très, très attaché à Gaspard. Et je vous dis, depuis, à d'autres situations, largement des enfants porteurs de trisomie 21, mais pas seulement. Voilà.
Alors, vous avez participé l'animation à la Sainte-Baume de sessions bien-aimées de Dieu qui ont un lien justement avec la perte de l'enfant et avec le handicap.
Donc la session des bien-aimées de Dieu, c'est pour les porteurs de trisomie 21. C'est chaque année dans à peu près la deuxième semaine de juillet ou la deuxième ou troisième, enfin à cheval un peu. Elle existe depuis, je crois, presque 10 ans. Moi, je m'y suis joint ces deux dernières années. Bon, j'ai élargi, hein, je ne pense pas que les porteurs de trisomie 21, il se trouve que, vous voyez, là aussi en ligne, on peut faire de très belles rencontres sur Facebook. Il y en a une que j'ai faite, que je dois mentionner, c'est celle de Julia et Frédéric Condroyer. Julia et Frédéric ont eu difficulté à avoir un enfant. Ils en ont eu un, et par PMA, voilà, ils l'ont eu. Et cet enfant est mort juste quelques heures avant la naissance d'un cancer du petit bébé, quoi, du petit enfant. Et du coup, ça a été une catastrophe terrible. Et il se trouve que Julia, la maman, c'est peu à peu, comme son mari autrement, mais c'est peu à peu sortie d'affaire en écrivant elle aussi en ligne. Et elle a écrit des pages extraordinaires dans un blog d'abord, qui s'appelle « Si mon histoire était contée », parce que cet enfant, ils l'ont appelé Simon. Je suis allé sur sa tombe aussi, à côté de Lyon. Et si mon histoire était contée, je suis resté du coup en contact avec eux. Et surtout, il se trouve que Julia, après avoir écrit plusieurs pages, s'est dit « Il est temps que je publie un livre ». Et elle n'est pas du tout dans ce monde de l'entrepreneuriat, dans l'édition. Donc, elle travaille à l'époque chez Blédina. Vous voyez, pour les enfants, c'est pas... Et aujourd'hui, ils ont fondé une boulangerie qui marche très bien avec son mari. Mais donc, du coup, je lui ai proposé mes services pour qu'elle puisse éditer aux éditions du CERF. Et effectivement, elle a publié... aux éditions du CERF, donc Julia Condroyer, journal d'une maman pas comme les autres.
Réponseau, le temps passe trop vite, nous sommes obligés d'arrêter cet échange. Merci beaucoup de votre témoignage, de cette rencontre extraordinaire avec Gaspard, avec ce que vous appelez l'effet Gaspard. Je rappelle le titre de votre ouvrage qui est une autobiographie, « Je suis né plusieurs fois dans ma vie », et donc l'intitulé de votre blog et de votre face Facebook.
Ça tourne autour de Pro Veritate, mais il suffit de chercher à mon nom. Simplement, je signale que la plupart de mes livres, une grande partie, c'est en édition du CERF, mais une grande partie, c'est en édition personnelle chez Books on Demand, bod.fr.
Frère Hervé, merci beaucoup.
Je vous en prie, merci.